Interview.
2 jours.
Ni peu ni assez, donc un lieu d'exposition pour ce week-end de Barneuve aux artistes, avec au sein de ce lieu Aurélie Ponson, bonjour.
Bonjour.
Ensuite Lucie Mahé, bonjour.
Bonjour.
Et Saïd Izem, bonjour.
Bonjour.
Tous trois, vous êtes sur ce lieu d'exposition, chacun exposant quelques travaux. Alors pour toi, Aurélie Ponson, ce sont des céramiques qui représentent plutôt des animaux un peu mythologiques, mystiques.
Ça, céramique animiste, tout à fait.
C'est le terme précis ?
Bah oui, c'est le terme qu'on a choisi.
Ensuite, Lucie Mahé, qui présente une facette particulière de son travail. On connaît un peu ses portraits, ses reportages aussi sur le Diwa. Et là, une approche toute différente. Ça sera peut-être à parler aussi du traitement fait à la photographie. Et puis, Saïd Izem, qui propose donc en exposition quelques toiles dont tu nous expliqueras rapidement la manière de les faire, tout simplement.
Oui, au fait, moi, je suis amateur, hein, je fais ça pour le plaisir de faire ça. Du coup, j'utilise de l'acrylique, je fais de l'abstrait. Et là, sous les conseils d'Aurélie Ponson, je me suis mis à faire des trucs avec des pigments naturels et des enduits à la chaux. Voilà.
Aurélie, ce travail sur ces animaux, c'est une démarche assez ancienne pour ton art.
Oui, c'est très ancien. Ça a démarré il y a maintenant une quinzaine d'années avec une plongée dans l'univers du bestiaire fantastique du Moyen-Âge, du Xe siècle, et la découverte que à cette époque, partout dans le monde, en fait, ces créatures-là, elles étaient réelles, elles avaient une existence, comme les djinns, comme les farfadets. Tout ça, ça existait pour de vrai. Et donc c'est cet espace de l'imaginaire-là que j'explore en fait pour lui redonner consistance, du coup, puisque les gens sont de moins en moins capables de le percevoir. Voilà.
Justement, ces animaux, tu parles de cette tradition hein, du premier millénaire où on représentait certains démons aussi, et puis aussi certains dictons qui permettaient de créer ces animaux fabuleux. Et Lucie Mahé, toi, donc, tu proposes un travail où tu décortiques, tu découpes, tu massacres un peu la photographie en quelque sorte.
C'est vrai que c'est un peu au-delà de la photographie traditionnelle, en tout cas. Ouais, j'aime bien triturer un peu l'image, voilà. C'est un travail beaucoup plus artistique que ce que je fais d'habitude. C'est assez nouveau, mais oui, ouais, j'aime bien entremêler, jouer avec l'image en fait. Voilà, c'est un truc qui m'intéresse bien et puis. Et puis le médium photographique, il est parfait pour ça. Donc voilà.
Tu travailles avec l'argentique, le numérique, tu mêles les deux.
C'est uniquement de l'argentique et c'est des appareils photo que je fabrique. On appelle ça des sténopées. Voilà. Et puis c'est une vieille technique photographique en fait, avec uniquement du papier photo qu'on met dans une boîte. Voilà.
Et tu as pu acquérir une certaine expérience et peut-être aussi déterminer un peu les expositions de ce papier en fonction de la lumière et puis du temps d'exposition. Parce que le papier papier photographique a une sensibilité beaucoup moindre que le film. Mais est-ce que tu as pu déterminer justement cette sensibilité? Moi, je crois que je l'ai avoisiné à 6 ou 8 ASA.
Oui, c'est ça. C'est à peu près 6 ASA, des fois c'est même 3. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très faible, en tout cas en sensibilité. Eh bien, écoute, c'est beaucoup de temps, en fait. C'est beaucoup de temps pour trouver le bon temps d'exposition, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de photos ratées, etc. Mais j'aime beaucoup en fait ce temps-là, justement, parce qu'il va aussi avec cette technique photo où le temps d'exposition est assez long. Des fois, ça peut être 3 minutes, des fois 10, ça dépend un petit peu de la lumière, quoi. Et voilà, j'aime bien jouer avec ce temps-là, en fait, qui est un autre temps.
Ouais. Tu parles de photos loupées ou ratées. Ouais. Qu'est-ce qui détermine cet état?
Bah, quand elle est toute noire ou toute blanche. Après, j'avoue que j'aime bien aussi ces photos ratées parce que je les utilise même en tant que forme. Voilà, en tant que forme. Et puis je vais des fois redessiner par-dessus, des choses comme ça. Enfin, c'est raté pour, je sais pas comment expliquer, mais c'est raté dans le sens que on voit rien dessus, voilà. Mais pourtant, la prise de vue a été faite, donc il y a quand même quelque chose dessus.
Mm. Ça fait penser que tu n'utilises pas certains acides qui permettent justement de réduire le ferricyanure, par exemple, ferricyanure de potassium, qui tend à éteindre l'argent et donc à faire réapparaître ce qui s'était effacé. C'est un travail que tu n'as pas encore vraiment fait.
Non, j'aime bien les trucs ratés, en fait. J'aime bien le côté... Comment dire? En fait, quand c'est raté, je vais m'adapter à ça. Et je vais jouer justement avec ça. Voilà. Donc, puis ça fait partie des surprises, en fait, de la photo. Et non, je vais pas aller chercher autre chose. Enfin, voilà. Je vais pas triturer l'image, en tout cas, avec ces produits-là.
Ça va?
Saïd, toi, tu te retrouves devant des toiles blanches, par exemple, et tu dois y mettre quelque chose. Comment tu procèdes?
Eh bien, c'est pas du tout ça, parce que moi, je récupère les toiles à trampoline, donc elles sont déjà peintes. Et puis, je refais le fond, et à partir de là, je laisse exprimer mon état d'âme, en fait, quelque chose comme ça, tu vois. Je suis passé par plusieurs phases. Et du coup, c'est ce que j'ai dit à Lucie, à Aurélie, c'est que moi, je fais de la peinture comme pas mal de gens font du yoga ou construisent des châteaux avec des allumettes. C'est juste pour être bien, en fait. Donc, j'ai pas de démarche. Je ne sais même pas dessiner, en fait. Et j'aime la couleur et peut-être que ça vient de mon ancien métier, la lumière, quoi. Peut-être que ça vient de là.
Je fais le tour à chaque fois. Hein. Oh, et Aurélie, toi, donc tes animaux, tes céramiques animistes, c'est ça? Pour toi, ces formes, la forme de ces êtres, te sont inspirées par tes recherches, tes connaissances de ce qui existe, ou alors aussi tu es dans la création de cette représentation?
Alors, moi, je suis inspirée par ce qui se passe dans les marges. Dans les marges, à l'arrière des chapiteaux, tout ce qui n'est pas visible, comme je disais. Et donc c'est une inspiration. Et après, toutes les formes qui sortent de la terre, en fait, via mes doigts, sont de nous. Voilà, c'est pas de la reproduction. Voilà, j'en ai eu fait, mais pas là.
Qu'est-ce qui t'a donné envie? Tu as l'attrait quand même pour ces représentations. Qu'est-ce qui t'attire sur ces formes qui sont fantasmagoriques en somme?
C'est justement la fantasmagorie. Rendre la fantasmagorie réelle pour qu'elle puisse être visible en fait à tout le temps, chacun. Ce sont des sculptures qui sont là pour faire du bien, qui sont là. Un peu comme des totems ou de ce qu'on a envie d'y projeter. Ce sont des sculptures qui ont leur place à l'extérieur, puisque c'est du grès et de la porcelaine, donc cuit à haute température et donc qui résistent au gel. Elles ont toute leur place dehors. Après, voilà, moi j'ai des inspirations, des envies, des fois des sujets qui m'intéressent. Et puis après, le travail, c'est un travail très long, ça dure des mois. Entre le moment où l'idée vient et l'idée est transformée en céramique, elle est passée par le feu et voilà. Et donc il peut se passer des fois plus d'un an en fait.
Tu procèdes par du dessin auparavant?
Ça dépend. La Madone, là, oui, je l'ai dessinée. Mais sinon, généralement, non, je les dessine. Elles se créent au fur et à mesure. Ouais.
Parce que... Oui, c'est vrai. Et puis, y a une sérénité qui se dégage aussi de ces personnages, de ces êtres.
En tout cas, ils ont des expressions, ça c'est sûr. Pas toujours serein. Et je fais des petits personnages aussi que j'appelle les petites têtes à cul, qui ont des expressions parfois un peu... Enfin, chacune a un visage en tout cas, exprime quelque chose. C'est pas forcément de la sérénité. De l'espièglerie des fois, ou de l'intérêt pour quelque chose qu'elles sont en train de regarder.
Lucie Mahé, tu proposes sur une de tes œuvres une sorte de parcours, une ligne qu'on suit à travers les images, qui sont très différentes les unes des autres, mais qui ont ce point commun donc d'appuyer cette ligne. Comment te vient cette idée au départ? Est-ce que tu avais une conception précise en tête pour cet agencement d'image, ou alors est-ce que le travail vient plutôt sous une emprise de ce que font ressortir ces images?
Alors à la base, je suis très sensible aux lignes en fait. Je suis graphiste, voilà, c'est mon métier de base en fait. Je suis graphiste, donc ça a toujours été quelque chose qui me titille. Et en fait, là, j'ai vraiment fait ça en fonction des peintures de Saïd et puis des sculptures aussi d'Aurélie, où il y a cette notion de ligne, et c'était pour faire une unité en fait dans l'exposition. Du coup, en fait, là, c'est vraiment créé pour cet événement-là. Et après, comment c'est venu, j'ai étalé toutes les photos et puis j'ai essayé de trouver les lignes en fait qui étaient sur chaque image, et essayer de construire quelque chose, un chemin en tout cas entre toutes ces photos, et puis rajouter des lignes à la main aussi. Voilà, il y a certaines photos où j'ai gravé dessus aussi. Enfin, voilà.
Les formats qui sont proposés sont d'assez petite taille. Est-ce que tu envisages de les faire peut-être un peu plus monumentales, ces représentations?
Pour le moment, non. Parce qu'en fait, ces formats-là, ils sont adaptés à l'appareil photo, enfin l'appareil photo, celui que j'ai fabriqué, quoi. Et du coup, comme c'est en général des boîtes, c'est des petites boîtes, donc on ne peut pas mettre des formats très grands à l'intérieur. Et donc c'est pas des négatifs, donc on peut pas agrandir en fait l'image ensuite. Du coup, c'est pour ça que ça reste des petits formats. Et j'avoue, pour le moment, ça me va bien en fait. J'ai un petit labo, j'ai pas beaucoup de place. Et voilà, pour le moment, ça me va. On verra plus tard.
Saïd Douair, tu amènes aussi ta part de complémentarité hein, sur ce lieu d'exposition. Ces œuvres, tu les as produites spécialement pour l'exposition?
Il y en a trois que j'ai produites spécialement pour l'expo, et le reste, c'est des toiles que j'avais faites auparavant, quoi. Et du coup, cette harmonie qui a été créée, c'était par Aurélie et Lucie. Du coup, moi, j'avais laissé mes toiles et je trouve que c'est magnifique. Voilà, parce qu'il y a une harmonie entre les trois propositions. Voilà, donc je pense que oui, il y a une complémentarité, évidemment. Ouais. Mais c'est grâce aux filles qui ont un petit peu trouvé, parce qu'il y a des toiles qui sont derrière, qui ont trouvé ce qu'il fallait mettre avec ce qu'il y avait comme photo et comme sculpture, quoi. Et du coup, elles ont travaillé sur une ligne, comme elle disait Lucie. Et moi, je trouve que c'est harmonieux. Voilà. Je trouve que c'est complémentaire, que ça fait un ensemble qui fait presque une seule œuvre, en fait.
Est-ce que tes toiles sont-elles un lieu?
Est-ce que, évidemment, un lieu, un endroit, quoi.
Un endroit.
Oui, c'est un endroit qui, en moi, qui ressort sur ces toiles-là, au fait. Ouais. Certainement, parce que quand tu fais ça, forcément, tu te dévoiles, tu fais des choses qui viennent de toi, quoi. Et Parce que, par exemple, j'avais une période où je crois que j'avais pas mal déprimé et j'avais pas que des démons, quoi. Voilà.
Ces démons, tu les as gardés ?
Je les ai gardés, évidemment, parce que ça fait partie de ma vie, en fait. Donc, je les ai gardés. Je voulais bien les exposer, d'ailleurs. Mais...
C'est pas Aurélie, tu les as vus, ces démons ?
Ben, je les ai tous vus, ces démons. On les a remisés pour le moment.
Voilà.
On a décidé avec Lucie, du coup, de partir sur des couleurs chaudes. En fait, moi, je trouve que là, la peinture qui est très expressive, c'est ce volcan de Saint-Dizier. Et donc, à partir de ces couleurs-là, il avait toute sa place sur cette cheminée. Et donc, on est parti de celui-là. Et après, à choisir, en fait, dans les œuvres de Saïd, qu'est-ce qui fonctionnait avec ça et aussi avec les photos, en fait, pour créer une rêverie, un voyage, effectivement, graphique. Voilà, et on va dire que les sculptures, elles sont un petit peu comme des gardiens, qui prennent place dans cette rêverie.
Aurélie, bonjour. Pendant la conception de tes travaux, à quel moment as-tu la certitude de ces formes, de ce qu'elles représenteront ?
Est-ce que j'ai la certitude ? Moi, je pars avec une idée. Donc après, je mets la technique que j'ai en œuvre pour pouvoir y parvenir. Ceci dit, la Terre elle-même, elle a sa propre volonté, j'ai envie de dire. Et souvent, en fait, il faut... Par exemple, cette madone, elle avait des cornes beaucoup plus grandes. Mais la porcelaine, elle ne permet pas forcément ce travail-là. Dans cette temporalité-là que j'ai eue pour travailler, les cornes n'ont pas pu grandir plus. Voilà. Par exemple. Donc des fois, la matière, elle contraint en fait à adapter. Enfin, toujours, mais... Voilà.
Mais au départ, par exemple, cette madone, tu l'avais déjà conçue en toi tu l'as formulée par des dessins, j'imagine
Celle-ci, je l'ai dessinée. J'ai fait un dessin à l'encre, mais en fait, la forme en elle-même, elle était... je l'avais en tête. Voilà.
Ni peu ni assez, pourquoi ce titre de cette association ?
Ni peu ni assez, c'est... Ni peu ni assez, et ben c'est Denis qui est le propriétaire de ces lieux, en fait, qui l'a donné sans le savoir parce qu'il répète ça souvent. Ni peu ni assez, ça veut dire avec excès. Voilà, j'en ai vu ni peu ni assez, j'en ai fait ni peu ni assez. Et à la fois, ça ressemble presque à un calembour, et à la fois... Et à la fin, on imagine plein de choses. Voilà, ça nous a plu avec Enzo. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
Chacun de vous a son propre atelier, ou alors vous avez pu peut-être vous mettre en commun sur un même lieu pour travailler ?
Ben là, non, on a chacun notre atelier. Moi, c'est à la maison. Et puis Aurélie, toi, t'as ton atelier, par contre. T'as un espace vraiment dédié à ça, quoi.
Et qu'on partage sur des temps de stage, comme on a pu faire avec des enfants là de Dix qui sont venus ici. C'était un stage photo avec des costumes qu'ils avaient fabriqués en atelier. Et un stage de sténopée, de prise de vue. Et puis on projette là pour fin juillet un autre stage ouvert aux gens autour du cyanotype, du sténopée, de l'impression végétale et avec de la sculpture aussi. Voilà.
Pareil pour toi, Lucie, la photographie, c'est un travail que tu abordes depuis de nombreuses années déjà.
Oui, ça fait longtemps que je suis dedans. En fait, à la base, je viens du dessin. Voilà, je viens du dessin. Après, il y a eu du graphisme. Et le graphisme, j'ai été graphiste longtemps dans le coin pour des compagnies de spectacle, des musiciens, tout ça. Et la photo, elle est venue juste parce que j'avais besoin de support en fait pour créer les affiches justement. Et puis en fait, voilà, sur un concert, enfin un spectacle-concert, là, il y a eu un. Ça a été magnifique et j'ai fait des photos voilà, en projection de l'affiche. Et en fait, je me suis vraiment régalée dessus à faire les photos. Et c'est comme ça que c'est venu. Donc il y a une grosse partie autodidacte en tout cas pour la photo. Et puis j'ai fait que ça après. J'ai laissé le graphisme tranquille.
Ouais. Cette photo, depuis peu, tu la transformes, tu modifies sa présentation. Est-ce que c'est aussi le fait d'avoir ce lien avec Aurélie, Saïd ou d'autres artistes, ça t'amène à transformer ta notion de travail?
Alors moi, j'aime beaucoup les rencontres. Et voilà, et c'est vrai que la photo, bon là pour l'exposition, j'ai vraiment fait l'installation en fonction de, bah, des œuvres de Saïd et puis celle d'Aurélie aussi. Mais les photos étaient déjà faites avant en fait. Hein. Donc, mais oui, j'aime beaucoup en fait les rencontres et ça, évidemment, ça influence le travail. Ouais.
J'imagine que tu ne jettes jamais tes photos, même les ratées.
Exactement. Je garde même les petits bouts de
bande d'essai.
Ouais, de bande d'essai, j'adore ça. Je trouve que c'est. Bah voilà, il y a une ligne dessus en fait, tout simplement. Et oui, et j'aime beaucoup ça, ouais. Mmh. Oui, je garde tout en fait, vraiment tout. Complètement.
Mmh. Et est-ce que. Des fois, on a l'impression que les images sont anciennes sur ce que tu présentes, ou alors elles sont toutes de toi, et que c'est aussi l'aspect du sténopé. Hein. Tu vas nous parler un petit peu de cet outil. C'est tout simplement une boîte complètement hermétique à la lumière, et juste ouverte par un minuscule trou où passe justement ce flux de lumière. Et qui permet de retransmettre sur le fond l'image inversée de ce qu'il y a à l'extérieur.
Oui, tout à fait, c'est ça. C'était quoi déjà ta question de départ ?
Alors, le sténopé, c'était par rapport à la photographie que tu utilises. Il y en a qui paraissent anciennes.
Voilà. Oui, ben, le rendu ancien, mais c'est parce qu'en fait, comment dire, il n'y a pas d'objectif en fait, donc c'est, ça fait ce rendu là. Après il y a une seule photo qui a été faite avec une plaque de verre que j'ai récupérée à l'Or d'Ébène, là, c'est la recyclerie à Cré, où il y avait plein de plaques de verre, et donc il n'y a que celle-ci en fait, où vraiment bah, il y a une dame qui a les vêtements de l'époque, etc. Mais tout le reste des photos, effectivement, c'est fait avec des sténopées, donc c'est des boîtes hein, que je récupère. Et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien ce côté un peu de récup et puis de surprise, parce que même quand on va faire la prise de vue, ben on ne sait pas vraiment... On ne voit pas ce qu'on va prendre en photo, quoi. Donc, il y a toujours la surprise... Voilà, au développement de ce qui va arriver. Et puis, bah, des fois, ça apparaît, des fois, ça apparaît pas. Et puis, voilà, quand ça apparaît, ben, waouh, on a la... Ouais, on dit, ah, mais oui, c'est vrai, j'avais pensé que la photo allait être comme ça, mais alors, pas du tout, et voilà. Donc, il y a un côté un peu magique.
Oui, parce que il y a certaines couleurs qui sont moins, par exemple, le vert est extrêmement foncé hein, dans le noir et blanc.
Oui.
Et donc, il peut y avoir aussi une confusion des tons ou des couleurs qui amènent cette densité. Ou parfois, il y a un flou ou une inconsistance qu'on ne peut pas trop distinguer.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça qui est super chouette, en fait, dans ce type de photo-là, par rapport au numérique d'aujourd'hui, où bah, on sait tout à l'avance, quoi, on peut faire les réglages en fonction, etc. Non, là, il y a un côté très... de surprise, en fait. J'aime beaucoup ça, ce côté surprise. Et voilà, ça fait partie de la magie de la photographie, comme la magie de la formation de l'image dans l'appareil photo et dans notre œil, d'ailleurs. C'est le même principe. Ouais.
J'ai une question qui me venait. Ah. C'était par rapport au stylo P. Oui, donc, bon, j'ai oublié, mais on va continuer sur le stylo P. Sur ce stylo P, donc, tu les proposes en construction avec ces ateliers d'enfants. C'est vrai que c'est un travail fastidieux pour la prise de vue, hein, c'est long, des fois les enfants s'impatientent. Mais après, le moment magique, c'est l'image qui apparaît dans son bac.
Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, les enfants sont toujours... je crois qu'ils ont la même magie que nous. Voilà, quand l'image, elle apparaît en développement. Et oui, et c'est vrai qu'ils ont vraiment l'habitude d'appuyer sur un bouton en voyant même la photo, en fait. Ils voient la photo, ils appuient sur le bouton. Et là, des fois, ils comprennent pas trop une boîte, on fait une photo avec ça. C'est quoi ce truc? Et puis voilà, en expliquant, et ben, écoute, ils sont aussi émerveillés que nous en tant qu'adultes. Quoi. Mais oui, on fait ça. Ouais, avec des ateliers. Ouais.
À quel moment tu peux déterminer l'aboutissement d'une œuvre? Notamment celle avec cette ligne qui se promène d'une image à l'autre. Est-ce qu'elle pourrait être sans fin, cette ligne?
Là, je crois que... Bon, déjà, il y avait un nombre de photos, hein, et j'avais plus assez de photos pour continuer cette ligne-là. Mais je sais pas, je l'ai senti en fait qu'il fallait s'arrêter là, en fait. Voilà, c'est juste, j'ai pas tellement réfléchi plus que ça. J'essaie que ça soit le plus équilibré possible dans la composition et voilà. Ouais, c'est un côté complètement instinctif.
Est-ce que depuis au moins les années 60, 70, on a commencé, beaucoup d'artistes ont commencé à abîmer. Quoique je me trompe, hein, on peut parler de Belloc aussi, qui grattait ses images. Pourquoi, est-ce que tu as réfléchi aussi, pourquoi cette destruction de l'image par des outils ou un procédé, quelle signification, toi, en tires-tu, à ton avis?
Alors j'ai pas du tout réfléchi à ça. J'avais juste envie de le faire, tu vois. Et du coup, non, je suis pas allée chercher plus loin. J'avais envie de rajouter telle ligne à tel endroit, de créer un univers en plus, quoi. Il y a certaines photos, justement, où qui manquaient peut-être. Pas des contrastes, des choses comme ça, et voilà, j'ai préféré le faire à la main plutôt que de numériser, de passer par l'ordinateur, etc. J'ai vraiment pas réfléchi à la signification ou quoi. En fait, c'est voilà, j'avais envie de le faire comme il y en a certaines, j'ai envie de dessiner par-dessus. Il y en a d'autres, ça va être peut-être autre chose plus tard, je sais pas. Ouais.
Aurélie, pareil, tes œuvres, tu es tributaire aussi de la Terre, hein, qui a sa propre existence et qui amène ses propres lois, hein, sur la faisabilité d'une de tes œuvres. Mais qu'est-ce qui détermine leur taille?
Qu'est-ce qui détermine leur taille? C'est la taille du four qui détermine leur taille. Alors, l'attention que je leur porte, c'est-à-dire que je peux faire facilement des petites sculptures, en fait, dans la main, ça tient dans la main. On peut faire ça en discutant, on peut faire ça en animant d'autres ateliers, on peut faire comme ça. En fait, les visages arrivent, en fait, les formes arrivent comme ça. Parce qu'il n'y a pas de concept derrière. Donc il y a un visage qui apparaît, il y a une expression qui apparaît, il y a un personnage, quelque chose, quelqu'un, en fait, qui surgit. Voilà, ça c'est pour les petites. Pour les grandes, il y a une plus grande réflexion, parce qu'effectivement, la matière, elle a ses lois, que la porcelaine, elle va être très, très molle, en fait. Et donc, du coup, il y a un temps de séchage pour pouvoir... Voilà, il faut pouvoir la faire fusionner avec le grès. Ça aussi, c'est... Voilà, c'est une autre loi. Il faut penser aussi les couleurs. Dans quel type de four ça va être cuit pour avoir quel rendu. Cette terre-là, c'est une terre à briques, terre qui vient de Bolène. terre à tuiles, terre à briques, briques réfractaires. Et elle peut avoir toute une variété en fait, de couleurs et de rendus selon comment elle est travaillée, dans quel four elle cuit. Donc moi, je travaille avec ça pour ce qui est du rendu. Et puis au niveau de la taille, et ben, voilà, je suis limitée par la taille du four, en fait. Donc, mais bon, il faut bien une limite à un moment donné. Hein. Après, j'ai dans mes projets de faire des sculptures qui seraient en plusieurs morceaux, en fait, mais qui joueraient avec l'espace, voilà, qui seraient dans un espace. Et là, à ce moment-là, bah, t'as une sculpture encore plus monumentale parce que, en fait, elle est installée dans un espace, voilà, qui rentre dans la terre, qui ressort, par exemple, ou dans un mur, et jouer avec ça. Ça, c'est pour plus tard. Voilà. Et puis la forme, elle est déterminée, oui, c'est ça, par exemple l'ours qui est là, il a subi de multiples il a eu une histoire, c'était plutôt un ours plutôt polaire qui est sorti à la base. Et cet ours polaire, il s'est affaissé, il a pris cette nonchalance là parce que la terre a bougé. Il a fallu lui mettre des côtes, lui faire une structure interne, un squelette. Il a un squelette à l'intérieur de lui pour pouvoir tenir, en fait. Voilà. Après...
C'est tout un... Ce travail est fait tout en conscience.
Ouh, en conscience. Dire que les accidents font partie aussi de la sculpture. Les emmènent quelque part. Hein. L'affaissement, je ne l'avais pas prévu. La terre était un peu trop molle, en fait. La tête était trop lourde pour porter. Donc il a fallu... Enfin voilà, ça a donné ça donne ça. Ça a donné ça.
Saïd, l'informatique et l'expression artistique, ça fait deux?
Non, parce que... Parce que vous faites, bon, il y a l'informatique, en fait, tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est utilisé dans le cinéma, c'est quand même, pour moi, hein, c'est quand même du grand art, quoi. En utilisant comme ça des logiciels pour faire la 3D, ce genre de choses. Donc, mais moi, personnellement, je ne suis pas dedans. Je ne le comprends à peine, quoi. Mais ça m'arrive d'être devant un film où il y a des effets spéciaux et je considère quand même que c'est très beau, quoi.
Mais là, voilà. Effectivement, on parle du 3D, où l'humain intervient, il est aussi, il dirige l'ordinateur. Moi, je suis plus dans le domaine où l'ordinateur est laissé libre de faire ce qu'il veut. Et moi, ce qui m'interroge, c'est justement sa banque de données, de toutes ces données d'images, qui reflètent la conscience humaine aussi. Et il restitue la conscience humaine visuellement et maintenant en vidéo. Et ça, c'est assez effrayant.
Moi j'ai une vraie aversion en fait pour ça. Il y a très peu de choses en fait sur moi, sur Internet, très peu de choses. Je suis sollicitée tout le temps en fait pour en mettre plus, pour être visible en fait. Et c'est comme ça en fait qu'on se rend visible et qu'on existe en fait aujourd'hui dans le monde réel. C'est par le biais de cet outil-là. Et ben moi j'ai envie, j'aurais envie en fait. Je ne sais pas si je suis pas contrainte à faire autrement, mais il y a un mouvement en fait aux États-Unis d'ados en fait qui reviennent au téléphone et qui ont décidé en fait de couper court en fait avec la vie dans les réseaux sociaux, qui est une vie parallèle qui peut intéresser des gens, mais moi en tout cas qui ne m'intéresse pas, c'est la vie de une vie dans laquelle je ne me retrouve pas, qui est énergivore, qui prend tellement de temps, tout ça. Moi, j'ai pas le temps, en fait. Du coup, j'ai décidé de pas être... De fait, en fait, je suis très peu visible. Et c'est à la fois handicapant dans cette société et à la fois, en fait, je pense que il y a d'autres univers, en fait, à reconquérir qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus précieux.
C'est intéressant aussi, ouais.
Je crois qu'on va arrêter. Hein. Donc, on peut peut-être signaler vos présences sur Internet. Pour toi, Lucie, hein, tu en parlais d'ailleurs. Tu parlais de cette
position. Oui, bah, du coup, moi, pour voir mon travail, il faut taper www.lucie.fr et Lucie, c'est avec deux Y. Voilà. Donc ça, c'est plutôt mon travail artistique en photo et les formations que je propose. Voilà.
Puis après, d'ailleurs, est-ce que le futur acte de résistance, c'est de faire en sorte que tes œuvres ne puissent pas nourrir cette base de données
Ben là, en fait, du coup, c'est...
Est-ce que ça ouvre sur d'autres perspectives à l'avenir ?
Ah, je sais pas. Je pense que c'est un choix. Soit je montre pas mon travail. En fait, à partir du moment où on met quelque chose sur Internet, c'est comme si le monde entier le voyait.
Hein. Tu nourris la bête.
Ouais.
En quelque sorte.
Après, voilà. Ou alors, je m'enlève de tout ça et mon travail est moins visible. Mais j'avoue que c'est un petit peu plus difficile quand même dans les lieux où on vit. Pour exposer, etc. Donc quand même, moi, Internet, c'est un outil qui est intéressant pour diffuser mon travail. Et puis, c'est pas grave s'ils utilisent ça pour faire des images.
Bah oui.
Parce que, ouais, non, ça me gêne pas.
Saïd, non, toi, c'est déjà, tu n'exposes pas forcément en général.
Non, moi, comme j'avais dit, que c'était quasiment thérapeutique pour moi, tu vois. Et que du coup, je ne mets pas sur Internet, j'ai pas de plateforme, j'ai rien du tout. Mais en même temps, je comprends la démarche de l'utiliser parce que ça reste quand même un outil de communication, quoi. Et voilà, donc je n'ai pas d'avis là-dessus. Ce qui me concerne, je ne mets pas parce que je mets des fois sur Facebook, mais c'est juste pour que les potes puissent voir, quoi. Mais c'est pas pour présenter un travail ou quoi que ce soit. Mais je reste convaincu que ça reste quand même un outil de communication qui est très important aujourd'hui, évidemment, avec la présence de l'importance de l'Internet dans notre société, quoi, aujourd'hui. Après, on reste quand même, ces expressions artistiques restent en dehors de tout ce qui est informatique. C'est plutôt de la sensibilité, c'est plutôt de la rencontre avec les gens.
Ne pas se satisfaire de ne voir que des images sur Internet. Là, moi, par exemple, on m'a sollicité pour mettre des photos de mes sculptures parce qu'en fait, on peut acheter des photos de sculptures sur Internet. Ça se vend très bien. On peut aussi acheter des vidéos de personnes, juste les pieds qui marchent avec des talons. Voilà, tout ça se vend, en fait. Et donc... Sauf que un tableau, une sculpture, peut-être de la photo argentique ou peut-être de la photo numérique, évidemment, elle a sa place sur un ordinateur, mais encore que le tirage joue énormément. Mais sinon, en fait, c'est un rapport à la matière. Et dans le rapport à la matière ordinateur, en fait, il y a un écran. Et c'est tout ce qu'il y a. Du coup, c'est très difficile, je trouve, de prendre des photos qui rendent, en fait, la sensibilité, l'émotion qui s'en dégage. Voilà. Après, moi, je suis visible aussi sur Instagram. J'ai bien des vidéos de mes ateliers qui sont sur Internet, des biographies au fur et à mesure des années, des choses qui ont été faites. Il y a des choses, évidemment, il y a de la matière, on me trouve. Hein. Mais, enfin, et c'est un outil de communication, évidemment, qui peut difficilement s'en passer si on a envie d'être visible. Mais le mieux, c'est quand même en vrai.
Aurélie Ponson, tu n'as pas une autre artiste du même nom ailleurs ?
Non, j'ai une homonyme, Adi, dans le Diwa, qui m'a suivi toute ma scolarité. Mais elle n'est pas artiste, je ne crois pas.
Eh bien, je vous remercie tous trois, Lucie, Aurélie et Saïd, de nous avoir donné un peu de temps à Air du Bois pour nous parler de votre exposition avec Ni peu ni assez. Et on pourra peut-être vous retrouver dans les prochains temps sur d'autres dates ou d'autres ouvertures à venir.
Oui, la galerie, elle va rester comme ça. Hein. Ça va rester un petit moment. Voilà, après, avec Enzo Et les gens qui viennent faire des résidences, on fait des petits concerts, il y a des petites choses qui se passent ici régulièrement, très régulièrement.
Bonne soirée.
Merci,
merci
à toi.
Salut,
Yves.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Thank you.